France Culture.
Tur, question du soir. Quentin l'a fait.
Quel lien entretenons-nous avec le végétal décoratif ou alimentaire ? Il semble que notre rapport au monde végétal soit avant tout utilitaire avec les plantes et les végétaux qui nous entourent. Ailleurs dans le monde, ils font pourtant partie intégrante de la société. C'est le cas par exemple en Nouvelle-Calédonie où l'igname est un objet de culte dont toute la cosmogonie kanak découle. Alors le monde végétal ne serait-il pas celui uni par la philosophie occidentale et celle d'autres régions du monde, en Océanie et dans les Caraïbes notamment? Qu'est-ce qu'une philosophie du végétal? Pour tenter d'y répondre, une invitée ce soir, c'est Loaluste Boulbina. Bonsoir.
Bonsoir monsieur.
Vous êtes philosophe, professeur associé au laboratoire de changement social et politique de l'université Paris Cité et vous faites paraître cet ouvrage intitulé « Sortir de terre, une philosophie du végétal », un ouvrage qui paraît chez Zulma Essai. Merci d'être avec nous ce soir dans
Merci.
Question du soir.
Dans cette pièce, on a le produit de 12 000 ans d'agriculture. En tout, on conserve 850 000 variétés de semences. Ici, vous avez la sélection des États-Unis. Ça, ce sont les haricots de Colombie. Et là, les boîtes de Corée du Sud. Je crois que c'est du riz. Avec le changement climatique, nous avons des nouvelles maladies, de plus en plus d'inondations, de sécheresses. On doit pouvoir s'adapter à ces nouvelles conditions. Ces graines, c'est un moyen d'assurer notre sécurité alimentaire. C'est en quelque sorte une assurance vie pour la planète.
Un reportage diffusé sur le 13h de France 2. Et qu'est-ce que cela raconte, Loaluste Boulbina, ce projet, ce grand projet de réserve mondiale de semences à Svalbard, en Norvège? Qu'est-ce que cela dit de notre rapport plus large au végétal aujourd'hui?
Alors évidemment, c'est en Norvège, ça pourrait difficilement être par exemple chez les Kanaks en Nouvelle-Calédonie ou chez les Aka au Cameroun, en fait, parce que c'est une patrimonialisation des semences. Et donc cette patrimonialisation des semences, elle intègre complètement un dispositif ou un système, comme on voudra, de patrimonialisation. Donc je le comprends parfaitement, effectivement, je le connaissais, c'est extrêmement intéressant. Mais on comprend que on est dans l'ordre de la sauvegarde plutôt que dans la culture, en fait. Et que cette sauvegarde, c'est face à une disparition programmée, je dirais, d'un certain nombre d'espèces ou de variétés, bien sûr, puisque certaines variétés ont été préférées à d'autres et qu'aujourd'hui, même en France, par exemple, on voit réapparaître des variétés qui avaient disparu de l'alimentation des Français.
Qu'est-ce qui vous porte dans ce dernier ouvrage? Quelle est l'ambition qui vous anime lorsque vous décidez de dessiner justement les contours d'une philosophie du végétal?
Alors, ce qui m'intéressait en fait, étant donné que j'ai habité en Nouvelle-Calédonie et que à ce moment-là, j'ai découvert des pratiques que je ne connaissais pas, j'ai eu l'idée en fait d'écrire un livre qui entendait être, disons, complètement transnational et surtout sans distinction de statut. Est-ce qu'on a affaire à une culture autochtone? Est-ce qu'on a affaire à un texte philosophique de la tradition européenne? C'est une espèce de remise à plat, en fait, des choses. Et cette remise à plat, cette façon, en fait, de construire des ponts entre les univers, plutôt que de renforcer les frontières, d'élever des murs ou de creuser des fossés, ce qui ne m'intéresse pas du tout. Donc toutes ces passerelles visaient à montrer que c'est l'idée que je développe dans le livre avec dans une multiplicité de facettes. Eh bien, c'est que nous avons un rapport très essentiel au végétal et beaucoup plus essentiel que nous le croyons, de façon générale. Mais pour le montrer, je suis partie de la culture de l'igname par les Kanaks en Nouvelle-Calédonie.
On va revenir justement sur cette culture particulière, hein, sur ce végétal en particulier. Mais avant cela, pourquoi dites-vous que nous ne percevons pas d'une façon lucide, j'allais dire, ce rapport essentiel au végétal ? Qu'est-ce qui brouille notre rapport et la vision que nous en avons ?
Parce que je crois que nous avons un filtre utilitaire et que ce filtre utilitaire, en fait, ne nous permet pas de saisir pleinement, bon, à part évidemment dans des études spécialisées d'anthropologie, par exemple, mais notamment d'anthropologie, eh bien, nous ne percevons pas ce que nous faisons lorsque nous apportons des fleurs au cimetière tous les ans au moment de la Toussaint, par exemple. C'est-à-dire, on fait comme si c'était quelque chose qui était en dehors de nos façons de faire. Et alors qu'on va, par exemple, parler de l'alimentation, on va parler des produits bio, on va parler de manger 5 fruits et légumes par jour, on va parler de choses dans un sens qui est un sens utilitaire relativement à ce qui serait un capital santé. Je ne reprends pas l'expression capital à mon compte.
Sans parler du végétal lui-même, pour lui-même donc.
Exactement.
Je voudrais citer un extrait de cet ouvrage que vous faites paraître chez Zulma Éditions, « Sortir de terre, une philosophie du végétal ». Vous écrivez « Il y a toujours des déclencheurs à une recherche. Ici, la Nouvelle-Calédonie en est le terrain ou le terreau. Toutes les plantes n'y sont pas égales en valeur. Certaines portent une signification dont d'autres sont dépourvues. Les Kanaks font en effet de l'igname un objet, pour ne pas dire plus des présents, singuliers et singulièrement investis. » Alors pourquoi partir justement de l'igname en particulier, et qu'est-ce que l'igname raconte du rapport des Kanaks au végétal ?
Alors, je vais vous répondre en revenant un petit peu en arrière.
Allez-y, je vous en
et
prie.
Et à quelque chose qui est quand même très fondamental, c'est que toute entreprise de colonisation implique en fait une négation de l'ancestralité des personnes, des gens, des populations sur lesquelles, chez lesquelles la colonisation a lieu. Ça se fait absolument partout. C'est le cas, par exemple, évidemment, dans les Amériques et en particulier avec l'esclavage, mais ça prend d'autres formes. Et donc, ce qui m'a frappé, c'est l'association du végétal et de l'ancestralité. Alors, pourquoi est-ce que je dis ancestralité ? Ben, l'ancestralité, ce sont les liens de parenté entre les plus jeunes, les plus âgés, ceux qui sont morts, les aïeux, en fait. Et donc, comment est-ce qu'on rend la présence des aïeux dans la vie sociale ? Et bon, chez les Kanaks, on ne va pas trouver de galerie des ancêtres comme dans les châteaux ou dans les manoirs et autres belles demeures.
Ça passe par l'igname alors ?
Et ça passe par l'igname, par quelque chose qui est justement enfoui dans le sol. Mais en plus, l'igname étant considéré comme étant masculin et représentant l'homme et le tarot la femme. Et donc, il y a à la fois, si vous voulez, une congruence, je dirais, ou un carrefour entre le mort et le vivant, et puis le féminin et le masculin. Donc dans l'agriculture, évidemment, dans la culture au sens symbolique. Et donc, voilà, ça m'a beaucoup intéressée parce que moi, je partais pas de l'agriculture kanak. Moi, je partais de la philosophie et de la notion de rhizome chez Deleuze et Guattari.
On va y venir également à Deleuze, voilà, et Guattari, mais avant cela encore, on écrit parfois qu'il existe des civilisations du végétal. Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça veut dire cette expression, une civilisation du végétal ?
Parce que la projection de l'humanité sur le végétal, cette projection qui est très forte et qui fait que le soin apporté, en fait, à ce qu'on pourrait appeler un légume, est un soin apporté à un être, en fait. Un être vivant, et non seulement un être vivant, mais un être qui porte les êtres antérieurs. Et pour une raison simple, alors pour une raison, c'est une façon de parler, bien sûr, mais pour une raison simple, c'est que l'igname c'est un rhizome, c'est-à-dire qu'en fait, on ne plante pas de graines de ligname, on le repique. Et donc, c'est le même être qui, 8 générations, 8 cultures, 8 années plus tard, ou 18 années, etc., constitue le même individu. Donc, il y a quelque chose qui est à la fois qui est extraordinaire, bien sûr, en étant tout à fait commun, puisque c'est un processus spontané qui ne dépend pas de l'action de l'homme. Et c'est en cela que c'est intéressant. C'est parce que ce processus n'est pas un processus qui a été conçu, maîtrisé, ce n'est pas une technologie. Ce qui fait que, en réalité, la culture de l'igname, elle va passer par le soin, par un certain nombre de pratiques aussi, qui ne sont pas seulement physiques ou matérielles, et qui sont aussi magico-religieuses, etc. Et ce soin a eu des caractéristiques particulières.
Je voudrais vous faire entendre un son qui relate, qui raconte la fête du Wadrawa, ou l'igname sacré de Marais. On est en Nouvelle-Calédonie, bien sûr.
C'est l'endroit mythique où l'igname elle a débarqué sur l'île de Marais. Et de là, il a rejoint l'intérieur du pays. L'igname, on peut dire que c'est aussi le début du peuplement. Nous, on est un peu le peuple de l'igname. C'est un totem, c'est une identité, c'est quelque chose d'assez respecté. C'est quelque chose de sacré. L'igname, c'est toute une vie. S'en sert pour les différentes cérémonies coutumières, c'est aussi la survie. C'est avec l'igname qu'on nous permet de vivre, vendre l'igname dans les étals du marché, vendre l'igname sur le mer. L'igname, c'est notre vie, c'est notre énergie.
C'est incroyable ce que dit ce monsieur, nous sommes le peuple de l'igname. L'igname, c'est notre vie, c'est notre sacré. Comment est-ce que vous l'interprétez, ces lois lustes, Boulbina?
Parce que l'igname obéit à un cycle, bien sûr, et ce cycle engage énormément d'éléments qui sont différents. Par exemple, si on lit les calendriers de l'igname, on voit que le ciel est clair, les baleines arrivent et sautent hors de l'eau, etc., etc. Donc, on comprend qu'on a affaire, en fait, à une cosmogonie qui est complexe. Et cette cosmogonie qui est complexe, elle rencontre les Kanaks. Pourquoi est-ce qu'elle rencontre les Kanaks? Parce que les Kanaks, ce sont des gens qui pensent pas qu'ils sont propriétaires de la Terre, ils pensent qu'ils appartiennent à la Terre. Donc, le rapport à la Terre est totalement différent du rapport que les Européens ont à la Terre.
Dans cette philosophie du végétal, vous avez des références nombreuses. Je voudrais qu'on se concentre sur deux d'entre elles. André-Georges Audricourt pour commencer. Alors, c'est un linguiste originellement, mais qui avait une culture folle, qui s'est beaucoup intéressé justement à l'igname. Et il souligne, ce chercheur-là, la solidarité du rapport entre animaux, plantes et êtres humains. Qu'est-ce qu'il vous a enseigné justement pour parfaire les contours de cette philosophie que vous proposez?
Alors, moi, je suis au sens de suivre Georges-André Audricourt, que je considère comme étant absolument génial, aussi génial que le linguiste Émile Benveniste.
Vous l'écrivez d'ailleurs, vous le dites de toutes les manières possibles, hein, qu'il est génial dans votre ouvrage.
Oui, je trouve que... Parce que c'est quelqu'un qui, en fait, il n'est pas du tout dans l'institution, c'est un original. Il est assez excentrique dans sa façon de procéder. Et même si, évidemment, on a tiré parti ensuite de ce qu'il avait pu faire. Et donc, c'est quelqu'un qui arrive et, avec les instruments de la linguistique pour comprendre des choses qui ne sont pas censées relever immédiatement de la linguistique.
Mais c'est ce qui est incroyable, pardonnez-moi, je vous coupe, c'est ce qui est incroyable dans la méthode que vous décrivez, dans la méthode de ce linguiste, c'est que une méthode qui n'était pas du tout applicable au végétal, à la philosophie, à ce monde qu'il découvre, c'est ce qui va lui permettre, au contraire, du fait de faire du lien entre des choses que nous aurions peut-être perçues comme étant extrêmement différentes.
Oui, parce que grâce à cette formation, eh bien, il comprend les significations que beaucoup ne pourraient pas comprendre. Par exemple, je cite une ethno-pharmacologue contemporaine qui dit que dans un autre terrain, comme on le dit dans ce genre de milieu, eh bien, qui dit qu'elle n'a pas compris le système général à l'intérieur duquel la pharmacopée était utilisée. Et n'ayant pas compris, elle a considéré que c'était quelque chose qui n'était pas efficient, en fait. Elle a pensé qu'elle avait affaire à des pratiques magiques, alors que c'était des pratiques médicales. Et donc, Audricourt, lui, c'est quelqu'un qui observe vraiment très finement les phénomènes. C'est sa finesse, en fait, qui me parle. Et puis son style également, parce que la finesse, c'est aussi la façon de s'exprimer, etc. Sinon, bon, on peut avoir des gros sabots de chercheurs. Ça existe. Donc lui, c'est quelqu'un qui observe, en fait, la façon dont les Kanaks vont procéder à la culture de l'igname, et en particulier, parmi toutes ces igames, j'y reviendrai, à ce qu'on appelle les ignames chefs. Et parce que toutes les ignames n'ont pas le même statut. Et il remarque qu'en fait, c'est une action indirecte négative. Ce qu'il appelle une action indirecte négative, ça veut dire qu'il faut accompagner, en fait, la plante. Il ne faut pas la contraindre, ce que nous faisons, nous, en Europe. C'est la raison pour laquelle j'ai donné, par exemple, l'exemple de Bouvard et Pécuchet, de leurs entreprises de jardinage intensif et délirant.
Et de cette obligation de suivre un manuel pour apprendre à jardiner correctement.
Exactement. Donc là, non, c'est autre chose, c'est l'observation. Et à partir de là, Audricourt élabore une hypothèse que je trouve extrêmement intéressante, surtout qu'elle est élaborée en 1962 et qui n'appartient pas aux études décoloniales, ni postcoloniales, ni quoi que ce soit. C'est qu'il considère qu'en fait, le rapport que l'on a aux végétaux et aux animaux conditionne le rapport qu'on a aux autres, aux êtres humains. C'est-à-dire qu'on peut comprendre des types de relations et des types de rapports à partir de la façon de traiter les plantes.
Si je fais un pas en arrière dans cette histoire de la philosophie, pourquoi vous êtes-vous intéressé à Hegel cette fois-ci? Qu'est-ce qu'Hegel nous enseigne là encore, peut-être d'ailleurs sans le savoir, sur cette philosophie du végétal que vous dessinez?
Parce que, disons, il y a un envers des philosophes. Et en général, on étudie l'endroit. Mais quand on fait attention aux détails, qu'on est sensible aux métaphores, on voit les auteurs d'une autre façon que lorsqu'ils nous sont enseignés, et en particulier qu'ils nous sont enseignés pour passer des concours ou qu'ils nous sont enseignés pour faire des thèses, etc. etc.
Alors, et donnez-nous un exemple avec Hegel, justement.
Alors, justement, Hegel, c'est quelqu'un qui définit la dialectique à partir du développement de la plante. Il essaie d'expliquer, donc pédagogiquement, ce que ça peut être que la dialectique. C'est-à-dire, la dialectique, c'est quelque chose qui est conservé en tant que supprimé. Ça veut dire que la fleur, par exemple, c'est l'exemple qu'il donne, hein, c'est sa métaphore, la fleur va devenir le fruit. Donc le fruit, il contient la fleur, elle était déjà là, mais ça ne l'est plus. Donc c'est cela qui signifie conserver en tant que supprimé ou supprimé en tant que conservé d'une certaine façon.
Et ce qu'il dit par ailleurs, mais cela rejoint ce que vous venez d'expliquer, c'est que le végétal est une chose extrêmement difficile à penser car c'est une chose en mouvement perpétuel, en transformation continue.
Parce que Hegel, c'est quelqu'un qui s'est toujours intéressé à ce qui est vivant. Et effectivement, moi aussi, il se trouve, hein, on est quelques-uns comme ça, à s'intéresser au vivant et à penser qu'il y a peut-être des façons plus vivantes de penser que d'autres.
Pourquoi, je vais poser la question d'une façon extrêmement directe, pourquoi Séloi Lustbulbina, n'aimez-vous pas les herbiers? Expliquez-nous.
Mais parce que l'herbier, déjà, bon, on prend quelque chose de vivant, on va le tuer. Première opération, on le tue. Et ensuite, on le classe.
Et juste pour des raisons scientifiques.
Bien sûr, mais pour des raisons scientifiques d'une certaine science qui hérite de l'histoire naturelle. C'est-à-dire qui est obsédée par les classements. Et ces classements vont toujours donner lieu à des discussions. Alors, les classements et les classifications, on le sait, en matière d'humanité, ça a été catastrophique parce que c'est la théorie des races. Mais c'est un héritage de l'histoire naturelle, vous voyez. Et donc là, il va y avoir des classifications. Et ces classifications, par exemple, c'est de savoir si est-ce qu'on a affaire à un rhizome ou est-ce qu'on a affaire à une racine. Et le genre s'appelle Dioscorea. Et ce genre, donc de Ligname, ce genre, il a ceci d'intéressant de porter le nom d'un médecin, en fait, de l'Antiquité, Dioscoride.
Mais si je vous suis bien, les Kanaks aussi classent les végétaux, hiérarchisent les végétaux. Alors, Ligname est bien le chef suprême des végétaux. Donc, à leur façon, à leur manière aussi, ils s'entraînent au classement et au classement du vivant.
Alors là, je dirais que c'est plutôt des incarnations. C'est-à-dire que là où vous avez raison, c'est qu'il y a des spécifications de l'igname. Il y a des ignames qu'on mange qui n'ont pas de valeur absolument particulière. Les ignames qui ont une valeur particulière, c'est ce qu'on appelle les ignames chefs, qui correspondent aussi à l'organisation des clans, des tribus, etc. Et dont je pense, et je ne suis pas la seule, que ce sont des œuvres d'art. Et donc, je ne sais pas, effectivement, toute société est une société dans laquelle un certain ordre est établi, est institué. À dire vrai, ce qui m'intéresserait, mais je ne suis pas apte à le mesurer, à l'apprécier, ni à comparer avec notre système classificatoire, parce qu'il me faudrait connaître des langues kanak que je ne connais pas. Il y en a 28. Parce qu'il y a une grande diversité linguistique, richesse linguistique, donc en Nouvelle-Calédonie, avec des langues majoritaires, disons. Et c'est quel est le principe, en fait, de la classification? Voilà.
En tout cas, ce n'est pas la singularité, la spécificité de la science telle que l'Occident le conçoit, pour reprendre vos termes, que de classer les végétaux.
Non. Nous avons systématisé un type de classification. La seule chose qu'on peut dire, c'est que les noms originels ne sont pas conservés en général.
Je voudrais vous faire entendre la voix d'une jeune philosophe. Elle est historienne de l'art, plus précisément. D'ailleurs, elle s'appelle Estelle Zong-Mengual. Elle s'exprimait sur l'antenne de France Inter le 22 mars dernier. Et elle nous parle des liens entre le vivant, le végétal d'un côté, et ce que peut l'art.
Force est de constater que la manière dont on s'est rapporté au monde vivant, notamment dans les arts, à partie liée avec cette crise qu'on vit aujourd'hui, puisque ce qu'on constate, notamment dans la peinture de paysages occidentale, c'est que la nature est considérée comme secondaire, elle est minorisée, c'est un décor, elle n'est pas active, elle n'est pas particulièrement mise en avant, montrée comme riche d'histoires propres, de personnages aussi complexes que les personnages humains. Et donc, forcément, cela a eu une influence sur la manière dont, dans la vie quotidienne, le fait qu'on n'ait que des objets culturels qui secondarisent le monde vivant par rapport aux humains, ça joue bien sûr dans l'importance qu'on accorde à ce monde quand on fait notre vie en dehors des œuvres.
Comment est-ce que vous interprétez ces lois, Luste Boulbina? Comment est-ce que vous analysez ce que vient d'expliquer Estelle Zong-Mengual?
Alors, je ne sais pas, j'ai pas bien saisi s'il s'agissait de la nature en général ou du paysage.
De la nature en particulier, me semble.
Voilà. Oui, mais cette nature, vous pouvez l'entendre de multiples manières, parce que, en fait, effectivement, disons que classiquement, on a valorisé dans l'histoire de la peinture occidentale, européenne, on a valorisé d'abord la peinture religieuse, puis la peinture d'histoire, et la nature morte étant un genre qui a été considéré comme inférieur. Mais pourtant, la nature morte, c'est quelque chose qui est extrêmement développé.
Alors, pour expliciter les choses et donc préciser ma question, Estelle Zong-Mengual travaille en particulier sur cette artiste américaine qui s'appelle Georgia O'Keeffe et qui avait l'habitude de peindre des fleurs sublimes, des fleurs qui ont été sexualisées par énormément de critiques d'art, alors qu'elle-même revendiquait une idée simple: non, ce sont des fleurs et seulement des fleurs.
C'est-à-dire que ce qu'elle veut faire, c'est pas forcément la façon dont on va le recevoir. C'est-à-dire que je vais prendre l'exemple de Linné, qui parle des organes génitaux des plantes. Donc, on considère qu'il sexualise les plantes. On dirait aujourd'hui que Linné, c'est une espèce d'islamo-gauchiste qui introduit la théorie du genre dans l'espace public. Et en fait, c'est la réception de l'inné, hein, sachant qu'il n'a pas, comment dirais-je, que le Saint-Office ne l'a pas accrédité, si on peut dire, ou crédité en tout cas. Et on pourrait dire la même chose de Georgia O'Keeffe, parce que Georgia O'Keeffe, elle a un geste, c'est le sien. Et rien n'empêche de voir dans ce geste, c'est ce qui se fait dans l'art, dans la littérature, autre chose que ce qu'elle a fait, et surtout quand on est dans une ère post-psychanalyse.
Merci beaucoup, c'est Loi Luste Boulbina. Voilà les bases posées d'une philosophie du végétal. Je rappelle le titre de votre nouvel ouvrage qui vient de paraître aux éditions Zulma, Sortir de terre, une philosophie du végétal. Merci beaucoup d'être venu ce soir dans Question du soir.
Merci à vous.